Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour Le Bonheur en question. Une émission dans laquelle, chaque semaine, je réponds aux questions des auditeurs. Des questions sur le bonheur que vous m'avez posées sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux. Suivront un conte de sagesse et un titre de ma playlist du bonheur.
Monsieur Bonheur, j'ai une question à vous poser. Quels seraient les critères retenus d'évaluation du bonheur pour tout dirigeant d'un pays ?
Eh bien, merci Jacqueline pour ta question. Alors Jacqueline, c'est une amie qui compte beaucoup pour moi, parce qu'en plus d'être mon amie, c'est ma comptable. Alors, concernant les critères retenus pour évaluer le bonheur pour le dirigeant d'un pays, eh bien, cela existe déjà. Le premier à mettre en œuvre était le roi du Bhoutan. Le roi du Bhoutan, en 1972, voilà, il s'appelait Jigme Singwa Wangchuck. Et donc, il a considéré que la croissance d'un pays devait prendre en compte le développement dans son ensemble et pas uniquement la perspective économique. Donc, jusqu'à présent, on utilisait le PIB uniquement pour mesurer, non pas le bonheur, mais la réussite d'un pays, la richesse, son activité économique. Et donc, le résultat du PIB est fait à partir de chiffres en provenance de l'industrie, des services, de l'agriculture, l'élevage, mais aussi la consommation des familles, en provenance des entreprises à la fois publiques et privées. Et puis, ça intègre aussi des chiffres d'importation, d'exportation. Mais en tout cas, ça ne tient aucun compte de facteurs vraiment les plus importants pour la satisfaction d'une population. Et ce ne sont pas les peuples les plus riches qui sont les plus heureux. Alors, donc voilà la raison pour laquelle on a créé au Bhoutan le BNB, le bonheur national brut, utilisé pour la première fois au Bhoutan, mais utilisé ensuite dans d'autres pays, puisque ça a été aussi développé notamment en France, à travers une étude, en des cas, qui a été menée par une commission qui avait été demandée en 2019, une commission dirigée par le prix Nobel Joseph Stiglitz et Amartya Sen, qui devait donc inventer de nouveaux indicateurs statistiques. Et ce rapport a été notamment utilisé par l'OCDE pour créer l'indice du bonheur intérieur brut, qui date de 2011. Alors, les critères sont assez proches du BNP. Je vais revenir sur le bonheur national brut. Bon, on va y trouver le bien-être psychologique. Ça intègre la santé physique, l'utilisation du temps, donc ça qualifie le temps de loisir et des interactions sociales avec la famille, les amis, donc des choses qui nous manquent énormément, bien sûr, en ce moment, raison pour laquelle beaucoup de personnes ont du mal à être heureux aujourd'hui dans cette situation de couvre-feu, de confinement et de limitation de circulation. Il y a la vitalité communautaire, la qualité des relations affectives, le sentiment d'appartenance, de fierté. Il y a bien sûr l'éducation. Ça intègre aussi la culture. Voilà vraiment encore des notions dites non essentielles aujourd'hui, mais en tout cas, c'est aussi la puissance des traditions locales, la participation du peuple aux événements culturels, le développement artistique, mais aussi le taux de discrimination. Ça intègre bien sûr l'environnement. Ça intègre encore deux critères, la gouvernance, donc c'est la perception que la population possède et la confiance dans le gouvernement, les médias, le système judiciaire, les élections, la sécurité publique, la citoyenneté et notamment la participation des citoyens à la vie politique. Et dernier critère, c'est le niveau de vie. Là, ça tient compte du revenu familial individuel dans son contexte, le niveau d'endettement du pays, la sécurité financière et la qualité du logement. Donc voilà des indices qui ont été imaginés au départ pour évaluer une économie qui était quand même basée sur les valeurs spirituelles du bouddhisme, mais qui intéresse aujourd'hui les économistes du monde entier. Des universités prestigieuses comme celle d'Oxford ont fondé des instituts du bonheur national. J'ai parlé de l'OCDE tout à l'heure, un pays comme la Nouvelle-Zélande en 2019 aussi a décidé d'orienter sa politique sociale et économique en suivant ce fameux BNB. Donc voilà pour quelques bonnes nouvelles sur ce sujet. Et peut-être en effet que cela peut changer quelque chose en France si nous décidions à un moment donné d'appliquer, pourquoi pas, ce type d'approche.
Mon cher Jean-Marie, aujourd'hui il neige et dans nos échanges sur le bonheur, la question était de se dire, est-ce que le bonheur est permanent, est-ce qu'il est fluctuant, mais est-ce qu'il ne serait pas lié à des efforts, des petits efforts, des gros efforts, est-ce qu'il ne se retrouverait pas au bout du chemin de l'effort au fil de notre existence? Voilà ma question qui peut être philosophique pour un jour de neige aujourd'hui, donc on ne va pas pouvoir sortir, et qui demande une belle réflexion dans cette quête permanente de ce que pourrait être le bonheur et qu'est-ce que c'est et où est-ce qu'il se cache. Il n'est pas permanent, mais il est certainement la récompense à l'effort. En tout cas, c'est la question que l'on peut se poser.
Mon cher Alain, il me semble que tu réponds déjà à ta question en la posant. Alors, chers auditeurs, Alain, en fait, est un ami que je connais de longue date, puisque nous avons travaillé de longues années ensemble dans la même entreprise. Eh bien, Alain, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si on considère uniquement le bonheur comme une suite de plaisirs ou de satisfactions, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bonheur hédonique hein, ou hédoniste, eh bien, il y a de fortes chances que, ou de forts risques en effet, c'est que ce bonheur soit dans l'impermanence, qu'on ait des moments de grand plaisir et puis des moments en effet d'oubli de ses plaisirs pour passer rapidement à autre chose, et puis qu'une suite de difficultés, de malheurs, de soucis ou de tristesses viennent gêner cette satisfaction de nos sens, et que donc on le considère comme étant fluctuant. Mais ça, c'est uniquement si on considère le bonheur hédonique. Il existe une autre forme de bonheur, que d'un nom savant, on appelle le bonheur eudémonique. En fait, c'est la somme de tous nos comportements qui procurent un bonheur, justement, continu, et un bonheur profond, ce que j'appelle ce fameux bonheur chronique, en fait. Le fait de posséder en soi une qualité de bonheur constante, quelles que soient les situations que nous vivons. Et donc, les anciens comme Platon pensaient qu'on était, une fois qu'on était en accord avec sa conscience, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui aussi la congruence, c'est-à-dire de se sentir complètement en phase, complètement en lien entre ses valeurs, ses pensées, ses paroles, ses actes. À ce moment-là, en effet, on a conscience de tout ce que nous possédons et on possède notre vérité, on possède une conscience de soi qui nous rapproche de notre être, et on a cet esprit serein que Épicure appelait justement déjà ce fameux bonheur eudémonique. Alors, si on regarde maintenant les sciences sociales, c'est en fait ce bonheur existentiel dont tu parles, c'est-à-dire celui qui est lié justement à notre être, quelles que soient les situations que nous vivons, et qui prend place dans notre vie et dans nos actions, et qui procure du sens à tout ce que nous faisons. Donc souvent, ce bonheur-là est associé au développement personnel, c'est-à-dire le fait, en effet, de pouvoir mieux se découvrir, mieux se connaître, mieux s'apprécier. Et ça implique, comme tu l'as toi-même défini, le fait de fournir des efforts, de travailler dur pour obtenir un job, un diplôme, une reconnaissance, de s'entraîner longtemps, régulièrement, avant de maîtriser une technique, une pratique, un sport, avant de pouvoir être à l'aise dans une langue étrangère, avant de pouvoir être suffisamment bon dans l'utilisation d'un instrument de musique. Je souris puisque nous avons passé une après-midi à jouer de la musique ensemble avec beaucoup de bonheur et avec tous nos défauts, mais tous nos plaisirs aussi à rechercher ces accords ensemble, cette harmonie. Et donc, ce bonheur démonique, il est fait en effet d'efforts, il est fait en fait d'accepter de vivre des situations difficiles, dans la patience, dans l'exploration de différents modes de vie, de fonctionnement. Et donc, à travers cet effort, eh bien, on développe une meilleure connaissance de soi. On élargit la conscience de soi. On passe par des phases de questionnement, de difficultés, d'incertitude, de remise en question, quelquefois, de nos croyances ou de nos modèles de référence. Mais on en tire beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur de ce travail sur soi qu'on a accompli. On se sent grandi, enrichi par tous les progrès que nous pouvons noter au fur et à mesure de nos approches et des progrès qu'on aussi bien du point de vue technique, je peux en parler de musique tout à l'heure, mais au niveau aussi émotionnel, relationnel, intellectuel et spirituel, les fameuses quatre dimensions que j'aime rappeler généralement, engendrées par l'atteinte de nos objectifs, favorisant la poursuite de notre motivation, l'acceptation des efforts à fournir pour traverser des difficultés, pour faire face aux obstacles, aux risques de découragement qui ne manqueront pas de nous mettre à l'épreuve. C'est bien l'automotivation, la volonté, le sens de l'effort, comme tu l'as toi-même deviné, l'investissement personnel, qui sont des moteurs puissants d'atteinte de cette forme de bonheur. Un bonheur qui nous accompagne alors sur le long terme, et qui renforce confiance et estime de soi. Appliqué à l'éducation, le démonisme se traduit par un accompagnement des enfants dont la recherche de sens dans la culture de la paix, au service de la vie, dans la qualité des interactions, et enseigner le bonheur eudémonique, c'est sensibiliser les plus jeunes au sens donné à leur vie, c'est-à-dire à leurs idées, à leurs paroles, leurs actes et leurs engagements. Donc Alain, bonheur hédonique, les plaisirs, et bonheur eudémonique, le sens et l'effort, se complètent et enrichissent nos vies. Il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. Nous avons besoin de satisfaire nos désirs à court terme et nos besoins d'épanouissement serein sur le long terme, en créant une meilleure version de nous-mêmes à chaque instant. Lors de nos échanges, tu parlais aussi de ton envie de t'investir aussi dans des actions plutôt humanistes ou humanitaires. Eh bien, tu es exactement en phase avec cette quête de bonheur eudémonique, puisque une des sources importantes de ce type de bonheur continu et profond, c'est le don de soi, c'est les engagements altruistes, c'est toutes les actions auxquelles nous participons afin de faire de ce monde un monde meilleur. Alors, cette semaine, le conte de sagesse n'est pas un conte, mais un joli texte de Frédéric Gros qui s'intitule « On ne maîtrise pas le cours des choses ». On ne maîtrise pas le cours des choses. Les maladies et les richesses, le bonheur de ses proches ou les réussites personnelles, sa réputation et les reconnaissances sociales, les plaisirs et les déplaisirs. Tout est pris dans des séries causales tellement complexes et ramifiées qu'il devient absurde de penser que la liberté puisse être engagée, authentifiée ou disqualifiée dans cet entrelac d'accidents. Ce qui dépend absolument de ma responsabilité, en revanche, c'est le sens que je vais donner à ce qui m'arrive. Comment vais-je qualifier les accidents de l'existence? Quel nom leur donner? Malheur fou ou peccadille? Épreuve de mon énergie ou drame atroce? Accroc minuscule dans l'immense tissu des affaires humaines? Fatalité supérieure, injustice indigne ou occasion donnée à mon courage, ma constance. C'est moi absolument qui décide. Le petit discours qui donne sens à l'événement, c'est à moi de le formater, de le composer, de le déclamer devant moi-même. Quel malheur soudain m'accable, s'exclame l'individu non déclaré. Et le sage, tiens donc, eh bien voilà, je suis prêt, je dois me montrer à la hauteur de ce qui m'arrive. Que des objets s'abîment, se brisent, la nature les a fait corruptibles et fragiles. Que des proches tombent malades, qu'ils meurent, ils manifestent leur condition mortelle, rien que de très naturellement logique. Mais ma responsabilité à moi, c'est ce que je vais faire de ce qu'il m'arrive. Un malheur indépassable, un accident négligeable, un défi à relever. Je suis le maître absolu du sens à donner à ce qu'il m'arrive. C'était Jean-Marie Marcos pour Le Bonheur en Question. J'attends vos questions sur les réseaux sociaux, les pages Facebook de Radio Axe, de SAD Solutions ou de la mienne, Jean-Marie Marcos, et bien sûr sur le site de Radio Axe aussi. N'hésitez pas, envoyez-moi vos questions pour les prochaines émissions. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur, mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h pour une nouvelle émission Le Bonheur en Question sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux. Searching.